15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Vera.
Bonjour Mélanie, bonjour Mohamed.
Bonjour. Bonjour docteur Mohamed.
Alors, Jimmy.
Bon, docteur Jimmy.
Dans l'introduction de votre livre, vous parlez d'abord d'un truc dont on s'est tous rendu compte. Moi, c'est vrai que j'écoute un peu parfois à la sortie de l'école ou à la sortie du foot pour mon fils. Tous les parents, on écoute un petit peu, ils disent « Ah, toi, il est TDAH. Ah oui, moi, il est hyperactif. Oh, le mien, il est surdoué. Oh, toi aussi, il est précoce. » Enfin, on a l'impression que c'est une épidémie. Il y a une épidémie, il y a des gamins partout surdoués et hyperactifs ou troubles de l'attention.
Aujourd'hui, on a une épidémie d'étiquettes.
Ah, oui, c'est ça.
Il y a 10 ans, tous les gamins allaient chez l'ORL quand il y avait des problèmes scolaires. Et maintenant, ils vont tous faire un test de QI. Et c'est à aura son diplôme d'intelligence ou qui aura le bonnet d'âne avec des problèmes de concentration.
Mais c'est l'école qui soucie de ça aussi. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de maîtresses ou d'instits maintenant ou de profs qui, c'est plutôt bien, on se dit sans souci, ils nous disent « Allez, pour lui, j'irai peut-être consulter, ça ne se passe pas très bien à l'école. Allez voir votre enfant, avec votre enfant un psychologue. » Ça veut dire quand même que l'école s'en soucie. C'est bien ça, non?
Alors, c'est bien, oui et non, j'ai envie de dire. Parce que les profs le disent de plus en plus, les enfants ont du mal à se concentrer. On le remarque, mais il y a un phénomène générationnel. De plus en plus d'enfants ont de mal à se concentrer, mais ça concerne aussi les adultes. Ça ne sont pas que les enfants. Et lorsque les profs s'en soucient, je trouve ça pas mal, mais on a trop vite fait de coller une étiquette de précoce quand un gamin fait des conneries et d'hyperactif quand il a du mal à rester assis une heure sur sa chaise. Il faut quand même le rappeler, quand on a 6 ans, rester assis une heure sur une chaise en bois à gratter sur un cahier, c'est pas facile.
Jimmy ?
Et du coup, vous en voyez de plus en plus des parents qui sont un peu démunis, qui ont parfois un parcours un peu erratique, ils ont consulté des psychologues, des psychiatres et qui finalement n'étaient pas justifiés. Vous voyez ça depuis quand en fait ? Depuis quand on en a nettement plus ?
Alors, ça fait une dizaine d'années que j'exerce auprès de ces enfants-là et puis vraiment depuis 4-5 ans, je vois un virage et de plus en plus de demandes de consultation pour des problèmes de concentration. Et c'est vrai qu'avant, la plupart des patients m'étaient adressés par des professionnels et maintenant ce sont de plus en plus les enseignants qui adressent en consultation.
Alors aujourd'hui docteur, on parle des enfants surdoués ou hyperactifs qu'on diagnostique à tour de bras ces dernières années. On a l'impression qu'il y en a partout. Donc, d'abord, vous, ce que vous dites dans votre livre, c'est arrêtons, les enfants hyperactifs précoces, il n'y en a pas partout. On va parler d'abord, nous, des précoces, des hauts potentiels. C'est quoi vraiment donc, un enfant à haut potentiel ?
Allez, vraiment, on essaye de ne pas dire de bêtises. J'ai regardé sur Internet en venant ce qui se disait sur eux et on trouve 6 catégories de précoces.
Ouais.
Alors là, quand je lis ça, j'ai envie de dire, arrêtons le bullshit.
Ouais, d'accord.
Parce que quand on trouve 6 catégories...
Vous m'avez fait peur quand vous avez dit, j'ai regardé sur Internet avant de venir, je me suis dit, merde, le mec, il ne connaît rien.
Non, j'ai révisé en fait. J'ai fait des révisions. Et quand je regarde ça, je me dis, on est dans le bullshit total parce qu'on est en train de nous dire finalement, être précoce, c'est avoir un trouble. Et d'ailleurs, il y a 6 variantes différentes de ce trouble.
Wow.
Non. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on parle de précoce, je préfère dire haut potentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on comprend plus vite, on réfléchit plus vite. Et c'est ça, quoi. C'est le gamin qui va connecter quand on lui parle, qui va comprendre, qui va poser les bonnes questions. Il va s'intéresser à beaucoup de sujets. Il ne va pas rester scotché sur les apprentissages qu'il va avoir en classe. Il va poser des questions qui vont dépasser un petit peu le cadre. Quand il est chez lui, il va vouloir aimer être nourri intellectuellement, faire des expériences scientifiques. C'est le gamin qui va prendre tous les Tupperware de maman, qui ne sait plus où ils sont passés, qui vous met du slime, de l'encre, un petit peu de savon, de shampoing, de machin, et qui va regarder ce que ça donne. Il essaye en permanence de trouver de nouveaux moyens de s'amuser. Et il peut être un peu fatigant parce qu'il a tout le temps des questions sur plein de sujets.
C'est sûr, Jimmy.
Ah là, on dirait moi quand j'étais petit, mais bon, pas de
façon. Il apporte toujours tout à lui. Dès que c'est positif, c'est docteur Jimmy Mohamed. Dès que ça pue, okay,
c'est pour
c'est
Gomez.
C'est docteur Gomez. Alors, Jimmy.
Alors, mais vous insistez dans le livre pour dire que ça reste malgré tout des enfants normaux.
En fait, quand on dit précoce, hyperactif, ils sont partout, on est un petit peu en train de se dédouaner des difficultés que rencontrent beaucoup d'enfants aujourd'hui dans le cadre scolaire. Et c'est ça que j'avais envie de rappeler. Un gamin au potentiel, ça n'est pas un gamin inadapté. Et finalement, quand vous regardez sur Internet, le haut potentiel, c'est flippant. Parce que quand on regarde haut potentiel, c'est des gamins qui sont en échec scolaire, qui ne sont pas adaptés, pour qui il faut des programmes spéciaux, des classes spéciales.
Et vous dites non, ce n'est pas vrai.
Mais non, ce n'est pas vrai. La grande majorité des hauts potentiels, ceux qui ne parlent pas, ceux dont on n'entend pas la voix, ils vont bien. Ils vont bien, ils ont de bonnes notes, ils ne sont pas en échec scolaire. Ouais, ils s'ennuient en classe parfois. Quand le prof reformule, qui va dire 3 fois la même chose de manière différente, c'est normal, il faut que tout le monde comprenne. Le gamin, il va décrocher parce qu'il se dit « c'est bon, j'ai déjà compris ».
Donc, Ce que vous dites qui est très intéressant aussi, c'est que les tests de QI, ça sert à rien pour les dépister.
Alors, les tests de QI, ça a un intérêt, et d'ailleurs, ça a été créé pour ça, c'est faire la distinction entre gamins à risque de troubles des apprentissages scolaires,
dyspraxie,
et gamins,
dyslexie, tout ça.
Exactement, et le gamin qui n'est pas à risque de troubles des apprentissages
scolaires. Donc, ce n'est pas pour l'intellectuel, pour mesurer l'intelligence.
Ça n'a jamais été fait pour mesurer l'intelligence. Pourquoi ? Parce qu'un test de QI, ça ne prend pas en compte tous les paramètres de l'intelligence. Il y a beaucoup plus de paramètres que les seuls mesurés par le test de QI. Et en fait, le test de QI va s'intéresser aux fonctions cognitives qu'on utilise en classe dans les apprentissages.
Donc, ça ne dépiste pas les surdoués. On fait comment pour les dépister, alors, les surdoués ? On parle avec eux, je crois.
On utilise un test vraiment très complexe à mettre en œuvre. On discute avec eux,
ah ouais,
on leur pose
compliqué.
Des questions. Et là, on va tout de suite voir qu'on a en face de nous un gamin qui percute vite, qui pose des questions et grosso modo, qui sait s'adapter rapidement.
Jimmy ?
Alors maintenant, on sait qu'il y en a un à Europe 1 et c'est moi, mais dans la population, ça représente quelle part, quelle tranche de la population ? C'est pas si fréquent que ça.
Finalement, le haut potentiel, ça va être de l'ordre de 2 à 3%. Peut-être 5% en fonction des critères qu'on utilise pour ces gamins-là. Mais je tiens à préciser aussi quelque chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à Paris, je vais parler de ce que je sais, on a de plus en plus de haut potentiel pour des chiffres à 120 ou 125, alors qu'on parle de haut potentiel à partir de 130
de QI.
Et vraiment 140 de QI. On a tendance à abaisser ça un petit peu pour dire « je ne sais pas quel est le problème de votre gamin, je n'ai pas su répondre à la question avec mon seul test de QI, donc on va dire qu'il est intelligent ».
Docteur Véran, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous. De retour sur Europe 1, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Louis Véra, pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors docteur, on va terminer quand même sur les enfants à haut potentiel. Donc vous, ce que vous dites, c'est que ce sont des enfants normaux qui sont en général pas en échec scolaire. Et donc finalement, un enfant précoce, ça ne se traite pas. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Rien, si ce n'est les nourrir intellectuellement en fait.
Alors, on va faire une distinction rapide entre haut potentiel qui a des soucis et haut potentiel qui n'en a pas. Parce que c'est vrai, il y a des hauts potentiels qui ont des troubles des apprentissages. Hein, on a le droit d'avoir un haut potentiel et d'avoir un trouble des apprentissages, dyslexie, dyspraxie, et celui-là, effectivement, on va s'en occuper. Après, le haut potentiel qui n'a pas de trouble des apprentissages, on va faire quelque chose d'incroyable, on va le nourrir intellectuellement. On va l'amener au musée, on va lui donner des bouquins, on va lui acheter des boîtes pour faire ses expériences scientifiques.
Et quand on n'en peut plus à la maison, parce que c'est épuisant d'avoir, j'imagine, un enfant comme ça qu'il faut nourrir intellectuellement tout le temps. Parfois, nous, on est fatigué, on n'est pas à haut potentiel. Vous voyez,
et quand on est fatigué à la maison et quand on a du mal à suivre, il y a une émission géniale qui s'appelle C'est pas sorcier, que les gamins à haut potentiel adorent.
On les colle devant des documentaires passionnants et des choses
Exactement.
Comme ça. Ou des émissions radio passionnantes. Alors, on va passer quand même aux hyperactifs. Jimmy, vous voulez dire un mot ?
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont très nombreux dans la population, alors que finalement, j'ai cru comprendre en discutant avec vous que les vrais troubles déficitaires de l'attention, ils sont assez minoritaires. Ça représente combien de pourcentage de la population ?
Alors, en fonction des études, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est entre 3 et 30% de jeunes qui ont du mal à se concentrer dans la population. Si on prend des critères objectifs, il y a effectivement à peu près 3% des jeunes qui ont un trouble de l'attention.
C'est rien du tout, en fait.
Non, 3% des enfants qui ont du mal à se concentrer.
J'ai l'impression que rien que dans mes amis, il y en a 30% ou 40% d'enfants hyperactifs ou TDAH.
C'est là qu'il est très important, effectivement, de savoir si on parle de troubles ou de problèmes de concentration. Oui, il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se concentrer, adultes ou enfants. Non, il n'y a pas de plus en plus de troubles dysfonctionnels de l'attention.
Mais alors mes copines, elles sont mythos, leurs enfants, ils n'ont rien du tout ? Enfin, c'est quoi le problème alors ?
Elles ne sont pas mythos.
Elles ont trouvé des mauvais médecins qui les ont mal diagnostiqués.
Mais les enfants, ils sont habitués dans la vraie vie à ce que ça pulse. Un gamin aujourd'hui, à 2 ans, il sait débloquer l'iPhone, il sait mettre des vidéos et à 3 ans, il sait faire encore plus de choses. Et ce gamin qui est habitué à ce que ça pulse, qui n'est pas comme nous, qui allions nous prendre 10 volumes de l'Encyclopédie Universelle pour préparer un exposé qui va faire « Ok Google, Napoléon, vas-y, raconte-moi un petit peu », et qui va nous faire un exposé très rapidement. Ce gamin-là, il arrive à l'école, qui n'a pas changé, qui est toujours l'école d'il y a 50 ans. Il se retrouve dans une école industrialisée, ce que j'appelle moi la boîte à sardines. Et puis là, on lui dit « Tu t'assois, tu écoutes, tu bouges pas, tu écris toute la journée. »
Oui, c'est clair que pour les enfants qui ont un trouble de l'attention, parce que c'est quoi alors avoir, juste nous donner quelques idées des caractéristiques, les vraies, qui font d'un enfant qu'il est TDA, trouble dysfonctionnel de l'attention.
Allez, le trouble dysfonctionnel de l'attention, j'ai déshabillé le TDAH de son H, parce que quand on parle d'hyperactif, ça fait peur à tout le monde, et ce n'est pas la principale caractéristique. Le trouble dysfonctionnel de l'attention, c'est un enfant qui a du mal à se concentrer en classe et en dehors de l'école.
Il faut que ce soit les deux. Hein.
Exactement.
Si c'est qu'à l'école, ce n'est pas le problème.
Si c'est qu'à l'école, c'est qu'il s'emmerde.
c'est clair.
Un gamin qui a du mal à se concentrer en classe et en dehors, au tennis, il ne va pas suivre les consignes, au judo, au foot, c'est pareil. Et en plus de ça, qui a du mal à s'organiser.
Donc ça, c'est un premier, deux premiers caractéristiques.
Ce sont les deux principales caractéristiques. Certains sont agités. Et devinez quoi ? Être agité, c'est pas grave parce qu'en fait, ça réveille la cervelle et ça permet de se reconcentrer.
Donc, quand il y a le H qui fait peur à beaucoup de parents, parce que souvent, ils disent il est TDA avec le H, toi, ou il est TDA sans H. Le H, il fait peur, mais en fait, le H, c'est mieux. S'il est un petit peu hyperactif, un peu agité, c'est mieux pour lui.
Le gamin qui s'agite un petit peu, en fait, c'est son cerveau qui dit Coco, t'es en train de t'endormir là, t'es fatigué, bouge un petit peu. Et ce gamin-là, il commence à bouger et en fait, ça relance la machine. Et un enfant qui s'agite, par rapport à un enfant qui ne s'agite pas, se concentre mieux. Là, je parle de ceux qui ont un problème d'attention, évidemment.
Jimmy ?
Et à partir de quel âge on peut poser le diagnostic ? Il est évident qu'à 3-4 ans, c'est peut-être trop tôt, mais parfois, on commence déjà à nous dire « Attention, votre enfant est peut-être un peu hyperactif, alors qu'il est peut-être juste un peu chiant, comme tous les enfants. »
On peut poser ce diagnostic raisonnablement à partir de la fin du CP. Dans les vrais critères diagnostiques, on dit 6 mois de difficulté à se concentrer, mais 6 mois de difficulté à se concentrer quand vous venez de perdre votre grand-mère, le chien que vous avez connu depuis toujours, vos parents séparent, ça me semble normal. Donc j'aime bien leur laisser au moins 1 ou 2 ans de difficultés d'attention avant de poser ce diagnostic-là.
Et comment, il faut être vigilant, vous dites aussi dans votre livre, parce que souvent on prend un trouble de l'attention parfois pour autre chose. Un enfant qui a, qu'une maîtresse croit qu'il a un trouble d'attention, en fait c'est un enfant qui est dyslexique, dyspraxique, c'est ça, hein, ça peut arriver très souvent. Hein.
En fait, c'est le principal dans mon job, parce que je reçois que des gamins qui ont du mal à se concentrer. Donc après, l'erreur à ne pas commettre, c'est, tenez, voilà un questionnaire, 30 questions, et puis à l'issue du questionnaire, eh ben, il a un trouble de l'attention, pas de problème, je vais lui faire une ordonnance de Ritaline. Non, le job, c'est, est-ce qu'il a du mal à lire ? Est-ce qu'il a du mal à écrire ? Est-ce qu'il a des problèmes de coordination, des problèmes moteurs ? On va chercher tous les troubles des apprentissages, parce qu'avoir un trouble d'apprentissage, ça veut dire avoir du mal à se concentrer.
Jimmy ?
Est-ce que les écrans, notamment chez les tout-petits, pourraient entraîner des troubles de l'attention, mais sans le vrai syndrome ? C'est-à-dire qu'ils ont une prédisposition à avoir une moins bonne attention, une moins bonne écoute, mais parce qu'ils ont été collés sur des tablettes à 3-4 ans.
Certaines études ont montré que les écrans pouvaient favoriser l'apparition de troubles de l'attention, notamment chez les tout-petits. Et effectivement, on considère que c'est un facteur de risque. Après, je ne veux pas je veux pas diaboliser les écrans parce que on ne parle que de ça et tout le monde demande aujourd'hui mais est-ce que les écrans sont responsables des troubles de l'attention ?
Si on le colle 24 heures sur 24 sur des écrans, peut-être qu'effectivement il y a un problème. Après, une heure par-ci, une heure par-là, c'est peut-être il faut être raisonnable, quoi. C'est tout, je pense, comme dans tout, non ?
C'est pas pareil. Si on le colle 24 heures sur 24 devant les écrans, il finira idiot.
Voilà, c'est ça.
par contre, en fait, c'est l'utilisation des écrans qui fait que on a de plus en plus de mal à se concentrer et c'est ce que j'appelle moi avoir une mémoire externalisée. Quand vous utilisez le téléphone pour retenir tous les numéros de téléphone, l'anniversaire de votre épouse, l'anniversaire de vos enfants, des parents, tous les contacts, les rendez-vous,
moi, je fais
et
ça,
que vous ne faites plus marcher votre mémoire.
Mais j'ai encore une mémoire, je crois.
Et bien, vous avez de plus en plus de mal à vous concentrer parce qu'en fait, attention et mémoire sont intercorrélés.
D'accord. Alors, contrairement aux idées reçues, vous dites aussi dans votre bouquin que les enfants TDA, ils n'ont pas de problème de comportement, d'impulsivité. S'il y a ces signes-là, mon gosse, il fait des colères. C'est pas qu'il est TDA, c'est qu'il a autre chose, en fait.
En fait, la première chose que je vais évoquer quand on me dit « il fait des colères, il est en opposition, il est chiant », finalement, c'est ni la précocité, ni le TDAH, c'est tout à fait autre chose. Les enfants avec un trouble de l'attention sont des enfants qui peuvent être fatigants, mais ils n'ont pas de troubles du comportement. Donc les troubles du comportement, ça peut venir se greffer dessus, mais ça n'est pas une principale caractéristique du TDAH.
Jimmy ?
Et du coup, il faut aussi arrêter de dire que trouble déficitaire de l'attention égale échec scolaire, parce que c'est aussi l'angoisse des parents, c'est de se dire que son enfant ne pourra pas suivre et avoir les acquisitions normales.
Alors là, c'est le pire. On est dans le même délire que pour les enfants au potentiel, qui sont tous en échec scolaire, si on regarde sur Internet. Les enfants qui ont un trouble attentionnel peuvent réussir aussi bien que les autres dans la vie, en fait, ce qui va faire la gravité du trouble de l'attention, c'est d'avoir un trouble des apprentissages, dyslexie, dyspraxie ou autre, et effectivement, d'être dans une école qui n'aménage pas.
Parce que c'est ça, en fait, hein, quand il y a un trouble de l'attention, la seule chose qu'il y a à faire, c'est qu'il y a quelques aménagements et on améliore la situation. C'est quoi, par exemple, les aménagements, rapidement ?
Quelques aménagements simples à mettre en place. On va le coller au premier rang, on arrête de le mettre au dernier rang, parce qu'au dernier rang, il va faire encore plus de grabuge et avoir encore plus de mal à se concentrer. On va lui expliquer les consignes à l'oral, parce qu'on sait très bien que quand on a donné les consignes à l'ensemble de la classe, il était déconnecté, on va lui dire « Tiens, je te rappelle, voilà ce qu'il faut
et
faire. »
Une consigne à la fois, je crois que vous dites.
Une consigne à la fois, quand on lui en donne trois, on peut être sûr que la deuxième et la troisième, il ne va pas les réaliser. Et quand il a un peu de mal à écrire, on peut aussi écrire à sa place ou l'interroger à l'oral.
Ça, ça marche bien, d'accord. Et ça suffit parfois, donc il n'y a pas de médicaments. La Ritaline, votre position quand même là-dessus rapidement, parce que longtemps, on les a tous collés sous Ritaline. C'est un médicament qui est normalement un petit stimulant. Hein.
Alors, on ne les colle pas tous sous Ritaline. Moi, je fais partie des prescripteurs de Ritaline. Hein. J'en prescris tous les jours, mais je la prescris dans des situations complexes chez les enfants qui ont un trouble de l'attention avec des troubles des apprentissages et qui sont beaucoup plus en difficulté. Mais on n'a pas toujours besoin de Ritaline quand on a un trouble de l'attention.
Merci beaucoup, docteur Vera, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on n'en sait plus sur ces enfants précoces ou qui ont des troubles d'attention, des enfants normaux, donc vous nous avez dit, mais qu'il faut savoir accompagner de la bonne façon. Merci encore. Il est temps maintenant de passer à notre séquence qu'on va appeler aujourd'hui les héros du quotidien. J'ai failli dire les héros, n'importe quoi. Les héros du quotidien, car on va parler d'une opération chirurgicale qui a eu lieu mi-novembre à Lyon. Une opération tout à fait exceptionnelle, réalisée grâce à l'association La Chaîne de l'Espoir. Des chirurgiens français viennent de séparer deux siamoises camerounaises. Elles s'appellent Bissi et Eyenga. Elles ont 1 an. Mais avant de vous parler de cette prouesse chirurgicale, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole, voir ce que vous savez des jumeaux siamois et de la façon dont les séparer quand c'est possible. On écoute son micro-trottoir.
Des siamois, des personnes reliées par un organe.
C'est deux personnes qui sont nées à la naissance et qui sont collées par leurs bras, par leurs pieds, par la tête, enfin... n'importe quelle partie de leur corps.
Il n'y a pas de séparation, je pense, des embryons et du coup, ils se mixent en fait.
Le facteur de risque, je pense, c'est lié pendant la grossesse, la mère, soit la bue, soit la fumée.
Un acte chirurgical à la naissance pour justement séparer les personnes.
Les siamois, au niveau de la tête, c'est beaucoup plus compliqué à partir du moment surtout où leur cerveau ne font qu'un. Il faut différencier clairement chaque neurone, enfin pas chaque neurone, mais chaque partie... du cerveau à l'un et à l'autre. Dans Grey's Anatomy, en tout cas, il y en a toujours un qui meurt. Normalement, l'objectif, c'est de sauver les deux personnes.
Je sais qu'il y en a une dernièrement, du coup, où ils ont dû séparer deux petites filles par rapport à ça.
Alors, je vais d'abord préciser un peu le contexte de cette intervention qui a eu lieu donc il y a quelques semaines. Ces jumelles siamoises, elles sont donc nées au Cameroun, il y a un peu plus d'un an. Elles sont nées par césarienne à la naissance, donc elles ont été découvertes comme reliées par l'abdomen. La maman de 18 ans a été rejetée par le père des enfants et une partie de sa famille s'est donc réfugiée, de sa famille l'a rejetée et elles se sont réfugiées donc à l'hôpital pédiatrique de Yaoundé. C'est là qu'elles ont eu la chance de croiser le chemin du professeur Mur, chef adjoint du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital des Hospices Civils de Lyon, qui était en mission là-bas. Il les a examinées, ces jumelles, pour évaluer si elles étaient séparables, et c'est là, Jimmy, que l'association La Chaîne de l'Espoir rentre en jeu.
Oui, les petites n'étaient pas séparables avec les moyens chirurgicaux sur place, et du coup, ils ont été pris en charge par l'association qui s'est mobilisée pour les faire rapatrier et prendre en charge sur le plan chirurgical et logistique en France. Et donc, elles sont arrivées en France début novembre.
Et donc là, elles ont été accueillies par l'antenne de La Chaîne de l'Espoir à Lyon, avec leur maman qui les accompagne tout leur séjour ici. Et donc, l'opération a eu lieu depuis, et ça a été un succès. Mais on est d'accord, Jimmy, c'est une opération qui a été très complexe. Hein.
Oui, ça a été. C'est une des premières d'ailleurs à l'hôpital Mère-Enfant de Lyon, qui est un des plus grands hôpitaux pédiatriques en France. Il a fallu 2 équipes chirurgicales qui ont été mobilisées, 5 heures d'intervention, une 20aine de personnels, un pool d'anesthésistes, de chirurgiens et de réanimateurs de chaque spécialité qui permet d'évaluer et d'expertiser de façon concrète la prise en charge très spécifique de ces fillettes. Et donc, il a fallu les séparer, comme vous l'avez dit, au niveau de l'abdomen. Mais ce qui a été complexe, c'est qu'elles étaient aussi reliées par une partie du foie.
Ah oui, donc de la microchirurgie pour leur laisser un petit bout à chaque fois, séparer ce foie sans que c'est de dommage de par ailleurs.
Exactement. Et donc, tout s'est très bien déroulé. Il n'y a pas eu de problème pendant l'intervention qui reste malgré tout à très haut risque.
Alors, pourtant, maintenant, donc, ces sœurs siamoises, elles sont donc des jumelles, ça y est, et elles récupèrent tranquillement de leur intervention. Mais j'imagine qu'on les a pas séparées non plus. Trop loin l'une de l'autre, ça doit pas être évident, j'imagine,
oui.
Pour ces petites filles qui ont été collées pendant un an de leur vie, d'être séparées tout d'un
coup.
Exactement,
l'aspect psychologique est évidemment pris en charge. Alors après l'intervention, elles sont évidemment en salle de réveil, en réanimation, où elles sont ventilées de façon mécanique. Et dès lors que ça a été possible, elles ont été mises côte à côte pour qu'elle puisse être enfin être réunie.
Et donc depuis, les équipes médicales, elles ont donné des nouvelles de cette petite Bissi, donc Eyenga, elle se porte bien je crois.
Exactement, d'un point de vue psychologique, les équipes sont attachées à ce que les enfants vivent le mieux et de façon la plus naturelle possible cette séparation. Alors au début, elles restaient collées, puis collées l'une de l'autre, et puis petit à petit, elles trouvent leur marque et commencent à s'accepter, et en tout cas accepter d'être l'une éloignée de l'autre. Évidemment qu'il y a une équipe de psychomotriciens, de kinés qui les rééduquent, et enfin, il y a malgré tout une intervention cardiaque sur l'une des jumelles qui doit être prévue prochainement, avant qu'elle puisse rentrer au Cameroun.
Bien sûr. Et donc tout ça grâce notamment à la Chaîne de l'Espoir, une association qui fait donc un travail remarquable et à qui aujourd'hui on tire un grand coup de chapeau. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors bien sûr, avec vous aujourd'hui, on va parler des moyens efficaces pour combattre les poux. Je suis sûr qu'on a plein d'auditeurs parents qui sont déjà à l'affût et prêts à noter. Alors ces bestioles que tous les parents détestent. Mais d'abord, on va quand même peut-être parler un peu d'histoire. Est-ce que des poux, il y en a toujours eu depuis l'histoire de l'humanité ou pas?
Oui, je crois que les poux sont adaptés à l'homme depuis toujours. Puisqu'on en a retrouvé effectivement sur les cheveux des momies égyptiennes.
Ah oui, quand même.
Vous voyez un petit peu, il y en a toujours eu. Et puis tous les animaux en ont, mais chacun son espèce. L'homme a ses poux propres à lui et il les a depuis toujours.
Jimmy ?
Et à quoi ça ressemble un poux au microscope ? C'est un peu fascinant, mais
C'est vrai que un poux, ça mesure à peu près 2 mm, jusqu'à 3 mm pour quelques poux.
Les poux géants. Non.
Les poux de corps surtout sont un peu plus gros. Les poux de tête, écoutez, c'est un insecte, donc il a une tête, un thorax, un abdomen, un peu comme une fourmi, avec trois paires de pattes. Il n'y a pas d'ailes, il ne vole pas et il ne saute pas.
Et il y a des femelles et des mâles, on est d'accord.
Il y a des mâles et il y a des femelles et ça couple pour faire des petits.
Et la femelle, vous dites qu'elle est, vous m'avez dit ça en préparant l'émission, elle est parfaitement adaptée, sa physiologie, à nos cheveux, à notre cuir chevelu.
Alors si on regarde bien, les pattes des poux se terminent toutes par une pince, une sorte de griffe qui se replie pour s'accrocher aux cheveux. Et ça prend un cheveu instantanément, c'est un réflexe et il s'agrippe très bien aux cheveux. Mais un poux ne sait pas marcher sur une surface lisse, par exemple.
Jimmy ?
La chronique sexo, c'est à la fin, mais là, si on parle de la sexualité des poux, il paraît que c'est un peu chaud, non ?
Ça n'étonne pas de vous, ça. C'est chaud chez les poux. Comment ça se passe ?
Effectivement, les poux s'accouplent beaucoup. Ils passent leur temps à s'accoupler, à se nourrir, à se reproduire.
Vous les avez bien observés. Vous avez fait des films, même, je crois.
Il y a un film, effectivement, qui a été tourné il y a quelques années, où on voit un accouplement de poux.
Et c'est acrobatique, je crois, vous dites.
Oui, c'est très acrobatique comme accouplement. Le mâle passe sous la femelle et il recourbe sa partie postérieure pour aller chercher la femelle. C'est assez acrobatique. Ils se dressent pratiquement sur leurs pattes pour ça.
Mais maintenant, on va passer à ce que tout le monde attend quand même, à ce qui est la bataille contre les poux. Comment on s'en débarrasse? Alors d'abord, on va quand même parler des produits qui sont vendus en pharmacie. Il y en a des tas, des produits estampillés anti-poux. Pas besoin de citer de marque, mais il y en a tellement. On dit, il y a eu plusieurs études qui l'ont montré, que les trois quarts n'étaient pas efficaces. Est-ce que c'est vrai?
Alors les poux sont devenus résistants aux insecticides. Depuis les années 90, ça a commencé, puis vraiment confirmé à la fin des années 2000.
D'accord.
Je parle des insecticides pesticides, c'est-à-dire des neurotoxiques. Alors depuis les années 2000, il y a des produits à base d'huile, des produits gras, comme la diméticone, qui sont maintenant commercialisés. Beaucoup ne sont malheureusement pas testés vraiment, il n'y a pas d'études cliniques, ils sont juste testés au laboratoire. Et quand ils marchent au laboratoire, allez, hop, on les commercialise.
Oui, parce que sur la boîte, il y a souvent écrit 100% d'efficacité. C'est écrit dessus, sur l'emballage.
C'est vrai qu'au laboratoire, beaucoup de produits montrent une efficacité de pratiquement 100%. Mais c'est quand on passe sur les têtes, quand on passe en clinique, vraiment, c'est là qu'on constate que ça ne marche pas si bien que ça. On tourne autour de 60 à 80%. Pour les meilleurs produits.
Alors moi, quand j'étais enfant, justement, j'ai eu droit à ces insecticides, je pense, parce que c'était ces produits qui sentaient hyper fort, ça prenait à la gorge même l'odeur, mais ça avait l'air de marcher. Pourquoi on les a arrêtés, finalement ?
Alors, vous parlez des insecticides pesticides, des neurotoxiques.
C'est pour ça que je suis dans cet état, là.
Notamment, celui dont l'odeur était très forte, c'est le malathion.
Oui.
C'est un dérivé des gaz de combat, adapté à l'homme.
Merci, maman. Maman, il s'est sur la tête. OK.
On prend mieux certains comportements.
Les plus utilisés, pratiquement, même si on le trouve encore dans deux produits. Les poux sont devenus résistants à ce produit-là aussi.
Ah oui, c'est pas parce que c'était mauvais pour mon cerveau qu'on a arrêté, c'est parce que les poux, ça fonctionnait plus.
C'est quoi. Quand même toxique.
Ah, Jimmy ?
Et pour venir aux produits qu'on trouve en pharmacie, il y en a plein, les Pouxit, Apaisil, bref, ces traitements donc, revendiquent 100% d'efficacité, on nous le dit dans les pubs, mais du coup c'est la publicité mensongère, on pourrait peut-être se retourner et dire qu'on nous vend n'importe quoi.
Alors les laboratoires qui revendiquent 100% d'efficacité se basent sur des essais qui ont été faits en laboratoire où il y a eu effectivement 100% d'efficacité.
Dans le petit flacon, quoi, c'est ça. Mais sur la tête, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on les noie sous les huiles dans les flacons
dans
et là, ça marche.
Dans les essais cliniques, je n'ai pas de notion d'essais où ça marchait à 100%.
C'est-à-dire que l'essai clinique, ce que vous voulez dire par essai clinique, c'est sur la tête des gens. Par contre, en voilà. Laboratoire, quand on asperge, on remplit un bocal d'Apaisil, Pouxit, etc., et qu'on met des poux dedans, ils meurent à 100%. Mais pas
au
sur la tête des enfants.
Oui, ça marche comme ça.
Et une fois sur la tête, on peut espérer quelle efficacité ?
En général, quand le produit est bon, ça tourne autour de 60 à 80% d'efficacité.
Ouais, c'est pour ça qu'ils ne sont pas si bons finalement, ces produits, effectivement, et qu'on en a toujours. Moi, je sais de quoi je parle, j'ai eu 4 mois de poux entre l'été et la rentrée à la maison. Et c'est un enfer, on les a tous essayés, on dirait que ça ne marche pas. Hein.
Mais il faut quand même préciser une chose, c'est qu'au laboratoire, c'est les conditions expérimentales. Hein, c'est-à-dire qu'on prend le poux, on le plonge dans le produit, on le surveille, il faut qu'il soit bien immergé, etc. Sur le terrain, c'est-à-dire quand on traite les gens, ça dépend comment on traite. Il y a des gens qui vont bien appliquer ça, d'autres moins bien.
Qui n'en mettent pas assez de produits.
On met pas assez de produits, ou alors il faudrait vraiment plonger la tête de l'enfant dans le produit, mais ça peut pas se faire.
Pourquoi je me gratte là depuis le début de l'émission par contre ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que dès qu'on parle de poux, tout le monde se gratte. Est-ce que ça, on a une explication déjà ? J'ai pas de poux là, j'en suis sûre aujourd'hui, mais pourquoi je me gratte ?
Peut-être dans le subconscient.
Ah, hein. C'est ça.
On revoit déjà tout de suite ce qu'on a connu quand on était enfant. Voilà. Mais bon, toujours est-il que sur le terrain, ce n'est pas toujours évident d'avoir une bonne efficacité.
Jimmy ?
Le principe des antipoux, c'est d'étouffer le poux. Et du coup, on a pas mal de remèdes de grand-mère. On pourrait nous expliquer qu'il fallait mettre de l'huile de coco. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça pourrait être une alternative finalement un peu bio en plus ?
Alors, il est très difficile de répondre sur l'efficacité d'un produit qui n'a jamais été évalué. Donc quand ce n'est pas évalué, on ne peut pas dire ça marche.
Donc l'huile d'olive dans la salade seulement, pas sur les cheveux.
Ça ne fera pas de mal.
L'huile
hein.
d'olive, c'est très bon à manger, effectivement. Mais à ma connaissance, il y a un laboratoire qui l'a testé, un collègue, et qui a publié l'inefficacité de l'huile d'olive. Oui. Sinon, d'ailleurs, beaucoup de Méditerranéens n'auraient plus de poux.
C'est sûr, avec toute l'huile d'olive qu'on consomme. Merci beaucoup, docteur Areski. On va poursuivre cette discussion. Vous restez avec nous. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Areski Isri, parasitologue et chef de service à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Alors, docteur, il y a quelques minutes, vous nous avez expliqué pourquoi, finalement, les produits anti-poux qui sont vendus en pharmacie ne fonctionnent pas très bien. Le peigne, par contre, on va en parler après, c'est assez efficace, mais il faut avoir de la patience. Et sinon, quand on veut se débarrasser des poux, il y a un autre moyen qui est peu connu. Il y a un médicament en fait qui existe. C'est quoi ?
Oui, il y a un produit qui s'appelle l'ivermectine, mais qui est prescrit seulement par le médecin. Vous ne pouvez pas l'avoir autrement. Que normalement, qui n'a pas l'indication poux dans son autorisation de commercialisation, mais qui est extrêmement efficace et que nous préférons réserver aux pédiculoses, c'est-à-dire quand on a des poux, aux pédiculoses qu'on n'arrive pas à traiter avec les autres produits.
Ce qui est le cas tout le monde en fait, hein, quasiment, parce qu'on n'y arrive pas. D'accord. Mais ce médicament, donc c'est un médicament assez ancien. Je crois que d'ailleurs, les gens qui l'ont inventé, ils ont eu le prix Nobel. Hein,
voilà, c'est un médicament dont les inventeurs ont eu le prix Nobel il y a 3 ans. C'est un médicament un peu miracle.
Hein, antiparasitaire.
Il est très efficace contre les vers, contre la gale, contre les poux. Et il a beaucoup d'indications. Il marche très très bien. Pratiquement pas de contre-indications ou très peu. Pas d'effet secondaire. Donc
non, mais
il est
sérieusement,
très bien
quoi, pourquoi vous ne nous en avez pas parlé avant, franchement ? C'est, en un comprimé, c'est réglé ?
Si, on en parle, on en a toujours parlé, mais on le réserve aux cas un peu compliqués. C'est un comprimé pour 15 kilos.
Donc, un enfant de 10 ans qui fait 30 kilos, on lui en donne 2, et puis ainsi de suite.
Voilà,
quoi,
on ne le donne pas à un enfant de moins de 15 kilos.
D'accord, il n'y a pas d'effet secondaire, on prend ça et les poux sont morts.
Il n'y a pas d'effet secondaire.
Qu'est-ce qui se passe concrètement ? On l'avale, ça passe dans le sang et ça tue le poux, c'est tout ?
Voilà, ça passe dans le sang et le poux prend du sang, donc il avale le produit et ça va l'intoxiquer. C'est un neurotoxique aussi.
Jimmy ?
Parce que moi, c'est des choses que je peux voir en consultation, des parents qui viennent parce qu'ils ont essayé plein de méthodes et ça ne marche pas. Et ce traitement, je le connaissais pour le traitement de la gale, qu'on a souvent utilisé, mais même j'ai l'impression que nous, généralistes, on n'est pas forcément au courant de cette indication. Alors, vous l'avez dit, hors AMM, donc hors autorisation de mise sur le marché, mais on pourrait peut-être aussi le diffuser auprès des professionnels.
Je pense que si vous avez une famille qui a des problèmes avec les poux et qui n'arrive pas à s'en sortir,
c'est une très bonne indication.
Une cure d'ivermectine, donc il y a deux prises le premier jour, on refait la même chose 10 jours après. C'est radical, ça marche
bien. Et pourquoi
on en
refaire 10 jours après? Vous pouvez expliquer?
Parce que le médicament n'agit que sur les poux qui se nourrissent. Or, il y a des œufs et les œufs, ils ne se nourrissent pas. Il faut attendre l'éclosion, l'émergence des poux.
Et donc, traitement en plus sans effet secondaire qui est normalement plutôt bien toléré.
Voilà, il est très bien toléré. Attention, il y a une contre-indication puisque effectivement, vous pouvez voir toutes sortes de monde. Les gens qui viennent de régions centrafricaines et qui peuvent avoir certains vers, comme la loise, ceux-là, il faut faire très attention avec eux. Ils peuvent faire une réaction importante.
Très bien. Bon, écoutez, on a noté en tout cas l'ivermectine. Ça peut résoudre les gens qui ont des problèmes sans fin avec les poux. Moi, je note en tout cas ça. Je pourrais demander une ordonnance assez rapidement.
C'est noté. Très bien.
Alors, il y a autre chose qu'on m'avait dit en préparant l'émission qui m'a interpellée. Vous m'avez dit laver toute la literie à 60, là, les doudous, les draps, quand le gamin il a des poux, ça sert à rien. Alors, vous auriez pu m'épargner pas mal de lessive. Comment ça se fait que ça sert à rien? On nous dit de faire ça pourtant depuis la nuit des temps, j'ai l'impression.
Alors, le poux de tête ne vit que sur la tête. Hein. Il est sur le cuir chevelu, il a tout ce qu'il lui faut à ce niveau-là. Les cheveux, c'est la forêt. Les cheveux, c'est là que la femelle accroche ses œufs. Et puis, il a le garde-manger qui est servi du matin au soir. Vous le sortez de là, le poux ne peut pas survivre. Il meurt assez rapidement, en 4 à 6 heures, allez, grand maximum une dizaine d'heures. Ce qui fait qu'on ne le retrouve nulle part ailleurs que sur la tête. Il ne va pas sur le lit, il ne va pas sur les cols, il ne va pas sur les manteaux. Sauf si on se coiffe. Si on se coiffe avec un peignet à poux, on fait tomber des poux, ils peuvent tomber n'importe où.
Ah oui, ils s'accrochent dans la brosse. Donc les brosses à cheveux, quand même, on peut les traiter. Oui, c'est ça.
Les brosses à cheveux peuvent être contaminées aussi.
Exceptionnellement.
Donc on arrête aussi ce conseil que je donnais aussi, malheureusement, de laver la literie.
Ils ont donné des mauvais conseils.
Non, mais c'est vrai. Même et pour les vêtements qu'on ne pourrait pas traiter à 60 degrés, on lui disait de les mettre dans un sac durant 2 jours pour laisser le poux mourir. Donc même ça, ça ne sert à rien en fait.
Non, non seulement ça ne sert à rien le sac.
Il nous a vraiment balayé tout ce qu'on croyait.
Alors non seulement le sac ne sert à rien, mais en fait, si vous voulez conserver vivant des bestioles, comme les poux, vous les mettez dans un sac, vous le fermez hermétiquement avec les vêtements, vous lui donnez les meilleures conditions d'humidité pour survivre.
Ah bah c'est génial, alors là, ça c'est... moi j'avais en plus mon fils qui pleurait devant le sac rempli de doudous, enfermé pendant 2 jours pour rien, en plus on les laisse vivants. D'accord, voilà. Bon, donc ça on oublie, on épargne du coup pas mal de lessive, hein, c'est bien. Par contre le peigne à poux, je reviens sur le peigne à poux, ça marche, hein. Vous êtes assez d'accord, mais pas n'importe quel peigne, c'est quoi le peigne idéal?
Alors un peigne fin peut très très bien marcher. Alors le meilleur peigne, je ne peux pas donner le nom, c'est un peigne avec des dents assez courtes, métalliques. Il est blanc, il a une petite loupe, il est commercialisé sur internet seulement. Il peut même enlever les lentes, mais attention, on ne peut pas l'utiliser sur n'importe quel cheveu. Il faut avoir des cheveux courts et raides, ou alors il faut mettre un produit pour démêler les cheveux, ou alors le faire avec des cheveux mouillés.
Mais un peigne bien passé tous les jours pendant une semaine, on peut s'en débarrasser des poux comme ça?
Absolument, quand on le fait régulièrement, on peut se débarrasser totalement des poux.
Jimmy?
Oui, alors est-ce qu'il y a des moyens de prévention contre les poux? Moi,
c'est vrai. Il n'en a jamais eu, il a 3 garçons, il est tranquille pour l'instant.
Ah, vous allez porter l'œil, comme on dit ce soir, ils vont tous avoir plein de poux. Mais est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas appliquer, souvent on parle des huiles essentielles, par exemple la lavande, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une très mauvaise idée?
Alors, il n'y a aucun produit répulsif qui marche contre les poux.
Décidément.
Nous les avons achetés à peu près tous, nous les avons testés. Ils s'accrochent très bien aux cheveux traités, même avec la lavande, ils s'accrochent dessus. Ils piquent à travers, donc ça ne sert à rien. Alors, le seul moyen de prévention, mais on ne peut pas le recommander à tout le monde, c'est la boule à zéro, mais ça, c'est pas applicable.
D'accord, ok. Mais la petite goutte de lavande derrière l'oreille, ça ne sert vraiment à rien.
Ça ne marche pas.
Bon, très bien. Il n'y en a pas d'autres moyens de prévention, si ce n'est pas les huiles
Les seuls conseils qu'on peut donner aux familles, c'est de surveiller la tête des enfants et dès qu'il y a le moindre poux, de traiter immédiatement.
Et de sortir l'ivermectine.
C'est une obsession.
Alors, du coup, vous les avez testés, vous, ça ne marche pas. Mais est-ce qu'il y a des poux, déjà, est-ce qu'il y en a toute l'année, finalement? Parce que bon, là, à la rentrée, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est le retour des vacances, ils se remettent en collectivité. Est-ce que finalement, il y en a toute l'année? Et est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui ont des têtes à poux?
Alors, les poux, il y en a toute l'année. Hein. Il n'y a pas de génération spontanée. Ils ne disparaissent pas pour revenir à un moment donné. Il y en a toute l'année. Est-ce qu'il y a des têtes à poux? Oui, certainement, il y a des enfants qui attrapent plus souvent les poux que d'autres. Ce sont en général des enfants qui ont peut-être un comportement un peu différent.
Ce ne sont pas des enfants sales, hein,
ils aiment
d'accord.
Bien les câlins. Non, ce n'est pas du tout les enfants sales, ça n'a rien à voir. Ils aiment les câlins, ils jouent tête contre tête plus facilement. Voilà, mais pas plus. Hein. Et puis je ne sais pas s'il n'y a pas autre chose. Est-ce qu'il y a des phéromones? Ça, je ne sais pas.
Ah, genre une odeur qui pourrait aller attirer les poux,
oui,
peut-être une odeur corporelle.
Oui, mais ça, c'est pas connu, c'est pas défini.
Parce qu'on dit les moustiques, parfois, ils aiment les sens sucrés. Alors,
ah, c'est faux, ça,
mais oui, c'est complètement faux. Mais est-ce que pour les poux, il y aurait peut-être quelque chose de ce genre-là? Ouais.
Les moustiques, comme les poux, ne sont pas plus attirés. Vous savez, ce qui les intéresse, c'est quelqu'un à piquer.
Ah, c'est tout.
S'il y a une peau avec du sang, voilà ce qui les intéresse.
D'accord. Vous pensez qu'un jour on arrivera à les éliminer définitivement de la planète, les poux? Parce que franchement, on est d'accord, ça sert à rien les poux pour l'écosystème ou je sais pas quoi.
C'est le rêve de beaucoup de
je
gens.
Je déteste, hein. Hein, on le sent. Hein.
C'est justicier, je pense.
C'est le rêve de beaucoup de gens d'éradiquer les
poux. Moi, je suis pour
de
l'extermination des poux. Moi.
Bon, écoutez, on a essayé, on a eu des armes extraordinaires, les insecticides. Et pourtant, les poux ont développé une résistance à ça. Non, je crois que c'est un rêve utopique, mais on ne va pas y arriver.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Areski, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on a appris plein de choses sur les poux, ces bestioles qui sont le cauchemar de nombreux parents en cette période de rentrée. Merci encore.
Merci à vous.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question d'Hélène, 38 ans. Je vous la lis. Mon mari peine à voir une érection et me dit que je ne suis pas suffisamment stimulante pour se sentir excitée. Cela me rend triste. Que devrais-je faire? Effectivement, c'est assez triste. Catherine, d'abord, c'est quand même, faut le dire, horrible de dire ça à sa femme, non? Enfin, je bande pas, c'est ta faute, quoi.
Oui, c'est horrible. Ceci étant, ça fait partie souvent, évidemment, sorti du contexte, on trouve tout ça horrible. Mais nombre de couples disent ce genre de choses parce que c'est douloureux pour un homme de pas arriver à avoir des érections.
Un homme peut avoir par d'érection pour des raisons médicales, parce qu'il a de l'hypertension.
Absolument.
Et donc là, dire c'est ta faute à toi, c'est un peu dur quand même, non?
Alors, bien sûr que c'est épouvantable, parce que comme vous le dites très justement, il y a des multiples facteurs à l'origine d'une difficulté à avoir des érections. Pas de libido, parce que tout simplement la tête ailleurs.
Anxiété.
Des médicaments qui peuvent, donner des causes d'impossibilité, des symptômes, des maladies. Une relation aussi défaillante. Et une relation défaillante n'est pas une femme qui s'est pas mise sur son 31 pour être source d'excitation. Une femme n'est pas là pour faire un numéro de cirque et assurer la bonne blague, etc.
Exactement.
Voilà. Donc c'est ce qui est triste dans cette histoire, c'est que finalement c'est un homme qui peine à faire face à la réalité de sa difficulté, ou alors qui a trouvé une excitation tout à fait ailleurs. Et donc par contre comparaison considère que sa femme n'est pas excitante, mais c'est parce qu'il est parti ailleurs, de toute façon, au niveau de son imaginaire, et qu'il met échec et mat, de toute façon, la séduction de sa femme, ou qui a peur aussi lui-même de vieillir et qui trouve que sa femme, du coup, n'est plus excitante, mais parce que lui est en difficulté avec son propre âge. Et du coup, il renvoie à cette femme, qui est de toute évidence suffisamment fragile, pour penser qu'elle a une responsabilité là-dedans, et qu'elle cherche, par sa question, à trouver le mode d'emploi pour devenir plus excitante, être plus mimi, être plus...
Moi, j'aurais envie de lui dire quittez-le surtout, mais bon, Jimmy, qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, qui est très psychologue.
Moi, je ne suis pas du tout psychologue, on s'en fiche.
Mais je partage votre avis, Mélanie. Mais si on doit faire la part des choses entre désir et érection, ce n'est pas forcément lié. Un homme peut avoir une érection sans désir.
Absolument.
Et inversement,
il
avoir du désir
que moi, hein, Jimmy,
sans érection.
Ouais.
Oui.
Ouais, c'est formidable. C'est ce qui fait que vous faites une bonne équipe.
On se complète. Allez, Catherine.
Oui, évidemment. Arrêtons de penser que toutes les érections masculines sont l'expression d'un désir. D'ailleurs, des moments, les hommes sont en désir, mais n'ont pas d'érection. Donc, encore une fois, le but d'une femme, c'est pas de mettre au garde à vous tous les hommes et ne pas faire de confusion, évidemment, les uns et les autres sur ce sujet. C'est-à-dire qu'un homme, il y a des tas d'hommes qui, dès qu'ils ont une érection, ils disent « Oh, moi, j'ai pas de problème de désir, moi, je bande tout le temps, etc. » Alors qu'en réalité, ils ont un problème de désir, ils sont dans la difficulté à érotiser leur relation et érotiser leur propre corps. Et d'autres, au contraire, qui sont en désir, mais sont en culpabilité inconsciente ou difficultés relationnelles suffisantes pour peiner à le traduire par le biais d'une érection. Je mets à part, bien sûr, les raisons physiologiques d'une impossibilité. Donc oui, ces confusions sont très grandes et du coup, ça entraîne un grand malentendu puisque du coup, les femmes se sentent en devoir de rendre l'homme viril par l'érection qu'elles doivent susciter en permanence. Donc il faut être sexy en permanence. Du coup, moi, j'entends souvent des femmes qui disent « il faut que je me mette en bottes, en dents. »
Moi, je dis jamais ça.
En jupe, etc.
Je me mets en pyjama le week-end.
Vous faites bien devant votre feu de cheminée.
Voilà.
le fait est que voilà, c'est et ça devient une véritable violence masculine sans qu'il y ait de violence à l'égard de la femme qui est obligée d'être toujours en mission pour que monsieur soit rassuré quant à lui-même, ce qui n'est absolument pas acceptable.
On arrête la mission, on est d'accord, donc là on écoute Mélanie Gomez, on arrête la mission, là on est d'accord, de toute façon c'est pas cette femme qui a un problème, c'est son mari qui a un problème, on est d'accord.
Oui, bien sûr, là tel que la question est formulée, ceci étant, si elle a le sentiment qu'elle n'est pas érotique, alors qu'elle pense l'être, peut-être qu'elle peut s'interroger sur son érotisme, mais pas au service de son mari, pour elle-même. Et effectivement, c'est lui qui a une difficulté et qui est lui qui est d'une grande violence, abîmant narcissiquement sa femme en lui renvoyant une image très médiocre, parce que sans doute, c'est l'image qu'il a de lui-même.
Mais c'est elle qui nous pose la question, donc le mieux, c'est peut-être quand même qu'ils consultent tous les deux, non, s'ils veulent rester ensemble, en tout cas.
Je dirais que dans un premier temps, c'est d'abord indiquer à son mari, en effet, qu'il doit y avoir une difficulté pour qu'il soit aussi violent et qu'il ait un tel regard, parce qu'il ne risque pas de résoudre son problème. Et puis sinon, finalement, si lui n'entend que d'une oreille ce conseil, je la conseillerais, elle, d'aller en parler, non pas pour résoudre le problème de son mari, encore une fois, mais pour se solidifier, se renforcer dans sa compétence à s'accueillir telle qu'elle est avec sa féminité pour pouvoir, le cas échéant, suivre votre conseil, à savoir prendre du large.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On se retrouve demain pour les meilleurs moments de Sans Rendez-vous. Dans un instant, 2 heures d'évasion s'offrent à vous avec Philippe Googler avec son émission « Et si on partait ?» Tous les jours du voyage au bout du monde et aussi en France. On va parler région, patrimoine, gastronomie. Je vous souhaite une très belle émission.